Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple n'apprécie pas trop que ses ingénieurs utilisent ChatGPT pour écrire du code. Ça va peut-être pousser le constructeur à proposer sa propre solution d'intelligence artificielle pour faciliter le développement dans Xcode. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on fête avec Anthony les 22 ans des Apple Store à l'occasion de la réouverture de la toute première boutique d'Apple après des travaux. Entre aujourd'hui et demain, on va faire le point sur l'histoire des Apple Store et leur transformation au fil des ans. Alors rendez-vous après le Flash Info pour cette chronique très spéciale. Nous sommes le lundi 22 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple n'aime pas trop que ses employés utilisent ChatGPT et les autres solutions d'intelligence artificielle comme le copilote de GitHub. On a appris en effet que le constructeur aurait demandé à ses développeurs de ne plus utiliser ses IA pour une raison assez simple. Il se trouve que ChatGPT partage des données et les conversations avec OpenAI pour améliorer le service. Mais voilà, chez Apple, on a la culture du secret chevillée au corps. Quand les développeurs travaillent sur du code destiné à de futurs projets, on comprend bien qu'Apple n'apprécie pas trop que des informations confidentielles soient communiquées à OpenAI, le créateur de ChatGPT qui travaille de près avec Microsoft. Après tout, OpenAI fournit aussi ses outils d'intelligence artificielle au copilote de GitHub, qui appartient à Microsoft. Il y a visiblement de ce côté un trou dans la raquette pour Apple. Les intelligences artificielles qui se basent sur les grands modèles de langage peuvent être très utiles pour les développeurs. GitHub peut par exemple suggérer des lignes de code en fonction de ce qui est présent dans un fichier. Évidemment, avec l'approche de la WWDC, beaucoup de développeurs d'Apple et d'ailleurs attendent quelque chose d'équivalent dans Xcode. Peut-être que le constructeur aura une solution à proposer qui soit respectueuse de la vie privée. Les claviers Apple récents ont une touche globe qui permet d'afficher le visualiseur des caractères ou la fenêtre des emojis. Oui, c'est une fonction absolument essentielle évidemment, mais malheureusement, ça ne marche pas très bien. Il faut souvent la frapper deux fois pour que le fameux panneau apparaisse à l'écran. Enfin ça, c'était le cas avant macOS 13.4. S'il vous fallait une bonne raison pour télécharger et installer la version finale de macOS 13.4, eh bien la voilà. On s'est en effet rendu compte que la touche globe affichait correctement et du premier coup la fenêtre qui va bien. Bon, évidemment, en audio, les emojis ça passe assez mal, mais sachez que j'ai affiché le bonhomme avec un large sourire. Alors tout le monde n'était pas touché par ce bug, d'après notre sondage, vous êtes 18% à y échapper, mais 24% d'entre vous l'avez quand même. 43% n'ont pas de clavier avec la touche globe, mais rassurez-vous, ce panneau des emojis s'affiche tout de même en combinant les touches FN et E. Les fraudes liées aux paiements mobiles, c'est-à-dire les paiements effectués avec Apple Pay ou Google Pay, représentaient 0,081% du total des fraudes de paiement au premier semestre 2022, selon la Banque de France. Ça paraît très peu, mais c'est un taux qui a légèrement augmenté par rapport à 2021. Mais surtout, le paiement mobile représente plus de la moitié des montants de fraude sur l'ensemble des paiements sans contact. Ce qui coince, c'est que de nombreux malandrins tentent de faire activer sur leur smartphone les cartes bancaires de leurs victimes à distance. Les pirates peuvent ensuite payer avec Apple Pay et les autres services avec ces cartes frauduleuses. Avant d'y parvenir, il faut encore que ces forbans rassemblent suffisamment d'informations sur les escroqués, ce qui n'a rien de très compliqué en fouillant sur Internet. La Banque de France recommande la mise en place d'un système de remboursement des montants volés après une contestation de l'utilisateur légitime du service de paiement. Les banques vont donc mettre en œuvre cette recommandation avec un point d'étape attendu en 2024. Les robots aspirateurs devront attendre. La mise à jour du standard domotique Matter ne les prend toujours pas en charge et ce n'est pas le cas non plus de l'électroménager connecté. La version 1.1 des spécifications techniques de Matter n'a donc rien de très intéressant pour les utilisateurs de ces appareils en particulier et il s'agit surtout d'améliorations pour les développeurs et les constructeurs. En revanche, on note tout de même une nouveauté digne d'intérêt pour les appareils alimentés par une pile ou par une batterie. Il s'agit d'une amélioration pour éviter les erreurs de connexion. Il faut maintenant que les constructeurs mettent à jour le firmware de ces produits spécifiques pour qu'ils puissent tirer profit de cette amélioration. Les grosses nouveautés, à commencer par une compatibilité plus large avec de nouveaux appareils domotiques, devraient tomber dans le courant de l'automne sans qu'on sache réellement quels seront ces fameux appareils compatibles. On pense entre autres aux caméras de sécurité. Le 19 mai 2001, Apple ouvrait son premier store à Tysons, dans l'état américain de Virginie. 22 ans plus tard, cette boutique a réouvert avec un tout nouveau design. C'est l'occasion pour nous et pour Anthony de revenir un peu sur cette aventure des Apple Store en deux parties, aujourd'hui et demain. Salut Anthony!
Salut Mickaël, salut à tous.
L'Apple d'il y a 22 ans n'avait pas grand-chose à voir avec l'Apple qu'on connaît aujourd'hui et les boutiques d'informatique ne ressemblaient pas du tout à celles qu'on connaît aujourd'hui aussi. Dès son retour en 1997, Steve Jobs a voulu relancer l'image de marque de la boîte qui était en passe de mourir en fait. Et puis il y avait aussi cette idée d'offrir un parcours client plus premium que chez les pousse-cartons de l'époque.
Ouais, il faut revenir à 2001, je crois qu'on a un peu oublié. Apple avait repris des couleurs avec l'iMac G3, mais enfin, c'était pas encore évident qu'elle allait sortir définitivement la tête de l'eau. L'iPod n'avait pas encore été présenté. Et puis tout merde, l'iPod, il a fallu attendre 2003 pour qu'il devienne compatible avec Windows et qu'il devienne le succès qu'on sait. Pour une grande surface comme Walmart ou comme Best Buy, ou même pour les chaînes plus spécialisées dans l'informatique ou l'électronique, parce que c'était presque plus de l'électronique que de l'informatique, c'était un risque de stocker des produits Apple, donc c'était pas forcément évident. Et puis Apple, elle avait pas envie qu'on vende ses produits qui étaient assez originaux quand même, à côté de boîtes beiges. Qui valait deux ou trois fois moins cher. C'est plus difficile de vendre un iMac G3, aussi innovant soit-il, quand t'as un PC HP à 400 euros à côté. Les Apple Store, quelque part, c'est un moyen de prendre en main son destin, de contrôler l'expérience de vente, de raconter une histoire autour du produit, ça c'est important pour Apple, et puis de vendre sans avoir l'air de vendre, ce qui est quand même plutôt pas mal.
Alors cette boutique de Tysons n'a rien à voir avec un flagship comme celui de la 5e avenue à New York ou celui des Champs-Élysées à Paris. En fait, c'est une boutique dans un mall, c'est un de ces énormes centres commerciaux américains. En même temps, à l'époque, il s'agissait surtout de tâter le terrain pour voir si la vision de Steve Jobs et de Ron Johnson collait avec la réalité. Et ça a été le cas au-delà de toutes les espérances.
Si les gens qui nous écoutent n'ont jamais regardé la vidéo de présentation de la première boutique, ça vaut le coup d'œil. Mickaël mettra le lien dans la description. Le premier quart de la boutique, c'était vraiment on explique Apple. Il y a toute la gamme de produits, les machines grand public d'un côté, les machines professionnelles de l'autre. Toutes les machines sont en accès libre. C'est la première fois, ça. Et elles sont toutes connectées à Internet en haut débit. À l'époque, il n'y avait que 3% des Américains qui avaient une connexion Internet à haut débit. Et donc on peut se rendre à l'Apple Store comme si on allait dans un web café. Et accessoirement, c'était une super démonstration du Wi-Fi qui était encore tout nouveau puisqu'on pouvait prendre les machines portables dans les mains. Au milieu du magasin, on avait des solutions à des problèmes pratiques autour de la musique, de la photo, de la vidéo, les trois grands piliers d'activité d'Apple. Et il y avait déjà un coin pour les enfants. Et quelque part, c'était aussi une manière d'incarner la stratégie du Digital Hub où on mettait des accessoires, des périphériques autour du Mac. Apple vendait les accessoires qui allaient autour du Mac, des appareils photo, des caméscopes, des baladeurs, des PDA. Et il y avait déjà un bout d'App Store, il y avait 300 logiciels dans cette boutique. C'était vraiment une boutique tout pour le Mac.
Quelle belle époque.
Incroyable, hein. Et puis évidemment, quand l'iPod est arrivé quelques mois plus tard, c'était impeccable. On enlève les baladeurs créatifs, à la place on met l'iPod, et puis d'année en année, comme ça, on a enlevé les accessoires tiers et on a mis ceux d'Apple. Non seulement ça collait à une attente, mais Apple... a super bien choisi ses emplacements. Le Tysons Corner, c'est à deux pas de Washington DC, c'est dans une banlieue cossue. À l'époque, c'était le comté le plus riche des États-Unis. Il y avait un peu de fric. La deuxième boutique qui a ouvert le même jour a ouvert dans une banlieue de Los Angeles. Donc pareil, on peut difficilement faire plus riche. Et en un an, Apple a ouvert 25 boutiques. Et quand on prend la carte des 25 boutiques, c'est la carte des 25 endroits où il y a le plus de fric aux États-Unis. Donc évidemment, non seulement la boutique est géniale, mais en plus, elle est là où il y a des gens qui achètent des Mac.
Un des principaux signes distinctifs des Apple Store, ça a été le Genius Bar. À l'époque, ça ressemblait effectivement à un vrai bar avec un comptoir, mais il n'y avait pas d'alcool. Là aussi, il s'agissait de proposer quelque chose de radicalement différent de ce qu'on pouvait trouver dans les services après-vente classiques.
L'idée, c'était littéralement d'aller poser des questions à des génies. Et la première génération de Genius, il faut le dire, c'était vraiment des cadors. Ils étaient absolument incollables. Et s'ils étaient collés, il y avait un téléphone rouge au fond du bar et tu pouvais directement appeler Cupertino. Pour éviter que ça devienne un service après-vente comme les autres, ce qui a pu être le cas avec l'explosion de la croissance d'Apple, Ron Johnson avait mis en place une politique qui franchement aurait été adoptée dans aucune autre boîte, où c'était très facile d'obtenir le remplacement d'un appareil plutôt qu'une réparation. C'était intenable économiquement et écologiquement, c'est pour ça que ça a disparu. Mais c'est aussi ce qui a fait la réputation d'excellence du Genius Bar. T'avais un problème, tu te pointais, la personne était compétente, et en plus, si t'avais un vrai problème qui nécessitait une longue réparation, on t'embêtait pas pendant des heures, on te filait un nouvel appareil. Mmh. Ce modèle, il a quand même fini par craquer, les files d'attente ont été de plus en plus longues, c'était de plus en plus difficile de faire des réparations en toute sécurité dans l'arrière-boutique, quand il y avait une arrière-boutique. Et surtout, quand il y a des centaines de configurations d'iPhone, d'iPad ou d'Apple Watch, ça devient difficile de tout caser dans les tiroirs qui sont cachés derrière le bar. Le Genius Bar, aujourd'hui, c'est une gare de triage. C'est surtout là où tu viens déposer ton appareil, puis Apple l'envoie au centre de réparation de Pegatron, qui est son principal partenaire logistique. C'est plus du tout un bar où tu viens boire un coup avec un génie.
Assez rapidement, on a vu la concurrence s'inspirer du design des Apple Store et de l'expérience qu'Apple pouvait y proposer. On peut même dire qu'il y a eu un avant et un après Apple Store, au-delà des copier-coller qu'on a pu voir chez Microsoft ou chez Samsung.
Ouais, quelques entreprises s'y sont essayées, on ne peut pas dire que ça a été une réussite. Microsoft avait ouvert une première boutique en 2009, ils en ont ouvert ensuite une centaine, une seule en Europe, et ils ont tout fermé en 2020. J'ai vérifié, j'ai appris en préparant ce podcast qu'il restait trois, ce qu'ils appellent les Experience Centers. C'est là où notamment ils font découvrir les nouveautés aux journalistes. Donc il y en a un à New York, un à Londres, un à Sydney. C'est tout. Je ne suis pas certain que Samsung ait eu beaucoup plus de succès. Samsung a deux boutiques en France, une à Paris et une à 20 bornes de Paris.
D'accord.
Donc je ne suis pas sûr que voilà. Finalement, ceux qui ont eu plus de succès en copiant Apple, c'est les revendeurs chinois. Ouais. Comme Apple avait du mal à ouvrir des boutiques en Chine, certains petits malins se sont dit « bah tiens, on va ouvrir des copies presque parfaites, on va faire genre on est Apple ». C'était vraiment impressionnant, hein, les photos, les vidéos sont assez impressionnantes. À partir de 2018, les autorités locales ont quand même commencé à serrer la vis. Tu sens qu'Apple, qui a mis quelques milliards en Chine, a froncé les sourcils. Et d'ailleurs, maintenant, Apple a 45 boutiques en Chine. C'est le plus grand nombre de boutiques en dehors des États-Unis. Aux États-Unis, il y a 272 boutiques Apple.
Il y a eu un redesign pour les 15 ans des boutiques, c'était en 2016 et ces changements ont été supervisés par Johnny Ive et par Angela Ahrens, la patronne des Apple Store à l'époque. On change les noms, par exemple le Genius Bar devient le Genius Grove, les magasins les plus grands intègrent une espèce de plaza avec du Wi-Fi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un an plus tard, les stores mettent en place des sessions Today at Apple pour apprendre gratuitement à utiliser des logiciels et pour faire parler sa créativité. L'idée, c'est d'achever la transformation des boutiques en lieu de vie au cœur de la ville.
Et d'ailleurs, on arrête de dire Apple Store. Voilà. Maintenant, on va chez Apple. L'architecture des boutiques est beaucoup plus ouverte sur la ville. Les façades sont de plus en plus discrètes. Et les projets empiètent de plus en plus sur l'espace public. Les frontières sont brouillées.
Ouais.
On ne sait plus vraiment exactement où s'arrête une petite place ombragée et la boutique dans laquelle il y a aussi des arbres. Ouais. Donc finalement, il y a une place, on ne sait pas vraiment où elle est. Les arbres dans la boutique, d'ailleurs, il y a des Mac Mini dans les pots pour contrôler l'arrosage. Apple parle d'avenue pour découvrir la circulation entre les tables, de forum. On peut s'asseoir, on peut suivre des conférences, assister à des concerts. La boutique des Champs-Élysées, ça fait peur presque. Elle est complètement éclatée dans un immeuble. C'est pas le genre de truc qu'on t'apprend dans un MBA. C'est pas comme ça qu'on fait une boutique.
Ouais.
Et dans cet immeuble, il y a aussi des bureaux, il y a des salles de conférences. Dans la Carnegie Library, c'était la première bibliothèque publique ouverte aux États-Unis. C'est encore une bibliothèque publique, mais enfin, c'est aussi un Apple Store au rez-de-chaussée. Apple, en fait, a restauré à ses frais la bibliothèque, en échange de quoi, et a pris un étage pour sa boutique. Apple vend plus seulement des produits, elle vend un style de vie. C'est vraiment ce qu'a apporté Angela Ahrens, qui venait du monde du luxe. On ne vend pas de produits, on vend un style de vie pour continuer à vendre des produits.
Eh bien, merci pour ce premier tour d'horizon des Apple Store. On reviendra demain avec la deuxième et dernière partie de cette chronique consacrée au réseau de boutiques d'Apple, pour lesquelles on fête les 22 ans en ce moment. Salut Anthony.
Salut Mickaël, salut à tous.
Et merci de nous suivre si nombreux chaque jour. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.